swap. Je suis en train de lire une entre guillemets biographie de Chevrier ne trompe pas. Et donc je suis très imprégnée en ce moment de son enseignement et sa façon de faire et comment. Ce qui est un peu dommage, c'est que la biographie est écrite par quelqu'un qui. C'est une sorte de monument. C'est pour ça que je dis entre guillemets biographie, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout objectif. Et donc c'est difficile de. Il adhère tellement à ce qu'il écrit que c'est pas neutre. Mais c'est quand même inspirant dans le sens que c'est. Je me sens très liée avec Chogyam Trungpa dans le, comme une sorte de même famille d'esprit. Dans le sens que. Je vois tout de suite ce qu'il voyait et que. Et ce qu'il essayait de faire. Je pense que véritablement il était un peu fou. On dit ça, que c'est ce qu'on appelle dans la tradition tibétaine crazy wisdom. Et je pense qu'il y avait de ça. Mais je pense aussi qu'il était un peu fou. Et que. C'est parce qu'il est mort très jeune, il n'avait même pas 50 ans quand il est mort. Et donc, il n'a pas pu aller plus loin dans son programme. Mais ce qui est la même famille d'esprit dans le sens que il était à l'avant-garde. Dans le sens les avant-gardes, et j'aime beaucoup cette perspective. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont définir l'avant-garde comme ça, mais en fait, les avant-gardes, c'est les traditionalistes. C'est ceux qui vont revenir à l'origine et à ce qui est à l'origine de la tradition. Et la tradition, dans l'occurrence, c'est d'agir ici et maintenant avec ce qui est. Ce n'est pas conserver telle ou telle forme, tel ou tel rituel, juste parce qu'on l'avait toujours fait comme ça. Donc les conservateurs, dans le sens, les conservatifs, dans le sens anglo-saxon de la définition, je ne sais pas en français si on a cette même définition, mais ceux qui sont conservatifs et conservateurs sont ceux qui veulent conserver la tradition, normalement. On l'entend comme ça. Mais en fait, ils conservent quelque chose qui est mort. Plutôt que de respecter les traditions, ce sera d'être constamment de le renouveler. Et les avant-gardes, c'est ça qu'ils font. Mais en art, c'est toujours ça. Il revient à l'origine. Qu'est-ce que c'était l'esprit des anciens et ils essaient de faire vivre ça aujourd'hui. Donc je partage avec Chogyam Trungpa ça, cet esprit-là. Et j'ai toujours dit, depuis longtemps d'ailleurs, que ce que j'essaie de faire, c'est avant toutes les formes et tout ça, quelle était l'origine de la chose et quelle était mon inspiration originelle, mais qu'est-ce qui était dans l'enseignement du Bouddha à l'origine? De quoi s'agit-il? Pas qu'est-ce qu'on fait au Japon aujourd'hui. C'est pas ça qui... D'ailleurs, j'ai lu un article aujourd'hui que le bouddhisme, le zen du temple au Japon est en train de mourir. Et c'est pas du tout étonnant, parce que c'est une tradition, entre guillemets, conservateur. Et évidemment, parce que c'est déjà mort en fait. Ça va mourir, parce que c'est déjà mort. Et ils appellent ça le zen des funérailles. Parce que les gens, ils viennent là uniquement pour les enterrements. C'est un peu comme l'église. Les gens viennent pour les baptêmes, les mariages et les enterrements, et le reste du temps, mais on s'en fiche. C'est ce qui se passe avec le zen du temple au Japon. Mais bon, je ne dis pas tout ce qu'il a fait et je ne trouve pas parfait, hein, ni ce qu'on voit aujourd'hui, les gens qui continuent sa, entre guillemets, tradition. Mais ça me ramène à ce qui est important pour moi. Et c'est, ça m'ouvre les perspectives de comment faire les choses. Bien que je ne ferai pas du tout comme lui, mais comme inspiration. Donc, je ne sais pas quoi dire à ce propos, à part ça. La semaine dernière, j'avais parlé des cinq familles de Bouddha, ce qui est quelque chose que j'ai appris, que j'ai étudié avec Bernie, bien sûr, mais à la suite avec quelqu'un qui avait appris ça avec Trungpa. Oui, tu l'as fait aussi, tu as
bien sûr.
Avec Irénée, quoi.
Les deux.
Ouais. Et j'avais parlé de ça parce que pendant notre retraite au cœur de la vie, on avait utilisé ça. Donc chaque jour, on avait quoi ?
Je suis allée sur le site. Tu
as vu ? Donc chaque jour, on avait une des familles. Et bon, je ne l'ai pas du tout fait en profondeur comme on avait fait dans cette retraite, c'est ce que j'ai raconté la semaine dernière. C'est la semaine dernière que j'ai raconté ça. Hein? Mmh. Oui. Mais peu importe, ça avait donné une couleur. Ça avait donné un élément et ça avait donné un sur lequel on accroche quelque chose. Un crochet ou quelque chose. Oui, peut-être, je sais pas. Pour notre journée. Ce qui est important parce que sinon on était un peu. Bah, ok, je vis ma vie, mais je fais quoi? Car en fait, toute cette pratique ne s'agit que de vivre sa vie pleinement. Mais il faut quand même s'ancrer dans quelques formes pour pouvoir aborder la magie qui est en œuvre dans cette vie. On a besoin quand même d'une structure dans laquelle on peut se couler pour s'ouvrir à cette évidence qui est les choses telles qu'elles sont. Donc ça c'est juste un exemple, c'est cinq familles, c'est cinq éléments, c'est cinq couleurs, etc. Et ça rejoint ce que j'avais dit la semaine avant, je crois, c'était à propos de... Enfin, je ne me souviens plus quand c'était. À propos du crack. Tout un fait et que... c'est comme ça que les lumières entrent. Si on ne voit pas les cracks, si on ne voit pas les feuilles, on ne va pas voir la lumière. Si on voit les fissures, on ne va pas voir la lumière. Donc, c'est très important de se pencher, de se mettre en pleinement dans sa vie pour ça, pour cette raison-là. Quelqu'un m'a écrit l'autre jour, je pense que c'est à propos des fissures, quelqu'un m'a écrit à la suite de la retraite, disant combien c'était difficile. Enfin, au début de la semaine, cette personne pensait que ça n'allait pas du tout être une bonne semaine pour ça. Elle était trop occupée, elle avait de la visite, etc., etc. Et puis finalement, c'était parfait de faire tout ça avec dans le contexte de la retraite. Et qu'à la fin de la semaine, ou quelques jours plus tard, pendant la semaine, son partenaire, qui ne pratique pas, l'a abordé en disant qu'il y avait des problèmes dans la relation et qu'il voulait en parler. Et donc, il était obligé de parler. Et finalement, c'était très bien. Et c'était très bien que c'était pendant la retraite parce que ça lui permettait d'être plus ouvert, etc. Et quelques jours plus tard, son partenaire a reçu un coup de fil en disant que son père a été diagnostiqué avec une leucémie aiguë et qu'il faudrait qu'il vienne tout de suite. Il vit dans une autre ville, dans un autre pays même. Et donc la personne m'a dit, et donc il est parti ce matin, il a pris l'avion, ne sachant pas du tout ce qui l'attend. Il ajoute, mais il a quand même emmené son costume noir. Donc, c'était présenté d'une façon pas du tout dramatique, mais entièrement présent. C'est des faits. C'est grave, mais c'est juste ce que c'est. J'étais frappée par ça. Et je pense qu'elle a pu me présenter ça comme ça parce qu'elle avait vécu cette expérience de la semaine où elle était avec tout ça. C'était à la fin de la semaine où son partenaire a appris ça. Mais... C'est vraiment, cette retraite, mais le tout, le truc de Trungpa aussi, c'est vraiment comme cette chose que je raconte toujours, que Roshi m'avait dit, il faut rencontrer les gens là où ils sont. Et c'est la même chose pour toute chose, tout phénomène de tout. Dans celui des Trungpa, il y a une citation du Karmapa qui est grande, grande dignité tibétain, c'est qu'on est Dalai Lama. C'était le précédent Karmapa. Le Karmapa aujourd'hui, il doit avoir même pas 30 ans, je crois. Le jeune de la réincarnation, mais bon, d'autres. Et il avait dit quelque chose de genre, je ne sais pas exactement, mais toute cette pratique s'agit de ne pas être pris par notre pensée discursive de ce monde ordinaire. C'est de entendre les sons comme les mantras. Et d'être avec toute chose qui survient comme une entrée dans la magie de la vie, de l'existence, disons. Bon, je raccourcis un peu la citation, mais c'était ça l'idée. Et je trouvais ça formidable. Il ne s'agit pas de ne pas entendre. Il s'agit de transmuter les sons. Ou quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais comme un rappel, comme une ouverture d'une porte pour nous laisser être éblouis par les choses telles qu'elles sont. Même si ça ne veut pas dire que tout est bon, ça ne veut pas dire qu'à chaque instant on adore ça et qu'on est heureux que mon beau-père est en train de mourir dans une semi. C'est pas ça. Du tout. C'est pas mon beau-père, mais je parle de cette personne. Et la magie n'est pas quelque chose de formidable, etc. C'est la magie étant que c'est pas figé. Les choses ne sont pas figées. C'est pas ce qu'on pense. C'est pour ça que cette pensée discursive nous empêche, parce qu'on est toujours en train de penser. Plutôt que d'être avec ce qui est. Et pleinement, même si c'est quelque chose qui nous déchire, qui est difficile, qui est compliqué, de ne pas passer à côté de ça. Et j'ai l'impression que ce que je dis, c'est la seule chose qu'il y a à dire. C'est vraiment la seule chose. Il y a une interprétation de tout le parcours du Bouddha, qui, je pense que j'ai parlé de ça, déjà, qui parle du principe que comme sa mère est morte quand il avait que quelques jours quand sa mère est morte, le Bouddha. Et il était élevé par sa tante et son père. La sœur de sa mère tout de suite est venue. Je ne sais pas si son père et sa tante se sont mariés, je ne sais pas quoi. C'était certainement pas comme ça autrefois, mais en tout cas, sa mère est morte et sa tante a pris la place de sa mère. Mais de toute façon, ça l'a marqué. La perte pour ce nourrisson de sa mère. Et il y a des gens qui font l'interprétation que tout son parcours à la suite avait comme origine cette perte de sa mère à cet âge-là. Cette blessure, cette souffrance, ce manque qu'il avait. Et tout était construit autour de lui pour qu'il ne le sent pas. Il y a une sorte de non-dit autour de lui, ou sa famille, son père, etc. Il construit une situation, on n'en parle pas. Ça n'existe pas, on ne va pas en parler. Comme ça, tu ne vas pas le sentir. Bah, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et à la suite, il a fait le parcours qu'on sait qu'il a fait. Où il fallait qu'il fasse face à ça, à cette souffrance, à ce manque, à cette perte. Et même, j'ai lu un livre où même toute la culture bouddhiste a été construite autour de ce non-dit, en fait. On présentait ça à sa mère, elle était tellement... elle ne pouvait pas supporter la joie d'avoir fait naître ce roi, etc. Et donc elle est partie. Elle voyait que c'était, il allait être illuminé, etc. Et donc, elle laissait la place, elle ne pouvait pas, c'était un tel joie, etc. Elle est partie. Mais c'est des bobards, ça. Enfin, c'est comme une mythe communautaire qui a été construit à partir de ce non-dit, de ne pas faire face à cette souffrance et cette perte. Lui, il le présentait pas ça comme ça. Et tout son cheminement était de s'ouvrir à ça. Son premier point, c'était « C'est la merde, on souffre, ça fait mal, il y a de la malheur, il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, il y a la perte, il y a le manque, etc. » Le premier point, c'était pas du tout « La vie est belle », premier point. Et donc, parce que pour lui, c'était le point de son départ. Et donc, il a fait tout son cheminement à partir de là. Bon, son cheminement l'a amené à voir quelle était l'origine de ça. Bon, pas seulement le fait qu'il a perdu sa mère, mais quelle est au-delà de ça l'origine de notre malheur. Parce que chacun a différent. Tout le monde n'a pas perdu sa mère à l'âge de deux jours. Quelle est l'origine de notre malheur? Une fois qu'on a vu l'origine de notre malheur, on voit qu'il y a une possibilité de soulager cette douleur, de le terminer. Et à la suite, il y a un chemin pour faire ça. C'était son enseignement. Mais ce qui est important, c'est ce premier point. Il faut le reconnaître. Et reconnaître ça, ça veut dire de vivre vraiment, de ne plus masquer, de ne plus mettre un pansement, de ne plus se cacher, le non-dit, etc. De le nier, etc. C'est ça, voir les telles choses telles qu'elles sont. Et c'est ça qu'on fait quand on s'assoit sur un coussin. C'est ça l'optique. C'est pas du tout de venir ici, se sentir bien. Ah oui, j'ai médité pendant une demi-heure. Oui, là, c'est bien. Pas du tout. Et c'est pas du tout de dormir, ou se donner, de se faire souffrir dans une posture qui n'est pas bien. Dans cet article que j'ai lu sur internet sur le zen qui meurt au Japon, il y avait un truc stéréotypique d'un moine japonais sur son coussin, vraiment dans un truc avec des robes et tout ça, un hôtel, etc. Et je dis, bah, bien sûr que ça meurt, parce que c'est pas possible ça. Il s'agit pas du tout de ça. Et il ne s'agit pas non plus de n'importe quoi. Donc, c'est ce que Bouddha avait dit aussi, c'était, il y a la voie du milieu. Il y a quand même une discipline. Et cette discipline, c'est, je reste ici, éveillé, vigilant pendant une demi-heure, si c'est ça le temps qu'on s'est donné. Et je regarde ce qui est. Je reste avec ce qu'il est pendant cette demi-heure. est-ce que... Question, commentaire... Sur d'autres choses aussi, c'est juste ce qui était... ce qui m'est venu à l'instant. Mais...
J'étais curieuse d'en savoir plus sur la façon de faire du sujet du livre que tu lis.
De choisir entre ou pas ?
Oui.
Ouais.
Qui t'a t'en parlé ?
Oui, il était un maître, un tibétain, qui est né au Tibet et qui a vécu jusqu'à l'âge de, je crois, 20 ans à peu près au Tibet. Et puis il y a les Chinois qui sont venus, et donc il est parti en Occident. Et c'était ce qu'on appelle un tulku, il était reconnu quand il était tout petit comme étant la réincarnation d'un autre maître qui s'appelait Trungpa aussi. Il y a une lignée de Trungpa, comme il y a une lignée de Dalai Lama, etc. Et donc il était reconnu tout petit, bien qu'il vivait dans un village, dans une famille de nomades. Complètement ordinaire. Et donc, à l'âge de 5 ans, je crois, il était amené vivre dans un monastère, il était éduqué, selon toute la tradition très traditionnelle, monastique, tibétain, bouddhisme tibétain, etc. Il a reçu tous les enseignements, les transmissions, etc., etc. Et comme j'ai dit, je crois que c'était début des années 60, il était obligé de partir parce que les Chinois venaient et soit ils tuaient, soit ils emprisonnaient toutes les dignités bouddhistes. Dans un premier temps, il est parti en Inde. Après, il est parti en Angleterre, au milieu des années 60. Et il a vécu quelques années en Écosse. Il a essayé de faire un monastère là-bas, puis il a eu un accident de voiture, et curieusement, sa voiture, je ne sais pas exactement ce que c'était les circonstances, mais sa voiture a fait un crash dans une boutique de farce et attrape. C'est comme des farce et attrape. Like a store with costumes and magic tricks and things. Et quand il s'est réveillé, je pense qu'il était inconscient pendant quelques secondes après cet accident, il a vu où il était. Soudain, il a eu une illumination et il a dit, mais c'est n'importe quoi que je fais. Et donc il s'est dérobé. Et il a quitté tout son truc monastique, parce que jusque-là, il était habillé comme un moine traditionnel tibétain, etc. Et il a mis les habits d'un occidental. Et finalement, il s'est marié avec une jeune anglaise, d'une très bonne famille. Et il est parti aux États-Unis. Il y avait des gens qui lui proposaient de venir aux États-Unis, dans le Vermont. Il est venu au Vermont. À la suite, il y avait d'autres qui l'invitaient à venir au Colorado. Et il est resté. C'était la fin des années 60. Et il est mort en 87. Et il a créé, donc, il a transmis les enseignements tibétains, mais sans les formes traditionnelles tibétaines. Et il avait créé tout un tas d'autres formes autour de ce qu'il faisait. Les gens étaient habillés en costume cravate, choses comme ça. C'était dans les années 70 avec tous les hippies et tout ça. Mais il les a fait couper les cheveux, s'habiller correctement, etc. Et donc, il était connu pour être ce qu'on appelle le crazy wisdom, dans le sens qu'il arrivait pour ses discours des heures et des heures et des heures en retard. Et parfois, il arrivait, mais ivre-mort, complètement, mais bourré. C'était les années 70 aux États-Unis, les hippies, et donc c'était beaucoup de les gens qui couchaient les uns avec les autres, beaucoup de drogue, etc. Mais à l'intérieur de ça, il y avait quelque chose de très profond qui était transmis. Et il avait créé tout un tas d'organisations, etc. Ce qui reste principalement, c'est une organisation internationale qui s'appelle Shambhala.
Ah.
Et ils ont des centres un peu partout, et avec un enseignement très structuré qu'il avait créé, lui. Premier niveau, deuxième niveau, je ne sais pas, combien de niveaux il y a ? 8 niveaux, je crois, un truc comme ça.
Moi, 5 ou 6, et puis après, c'est plus des niveaux, ça s'appelle autrement.
Oui, c'est ça. Bon, bref, il y a les différents niveaux. Il y a différentes pratiques. On fait des ikibana, on fait le tir à l'arc, on fait un travail au mouvement qui était à l'origine pour le théâtre, mais maintenant, c'est ce qu'on avait fait avec cette groupe à Shambhala. Ils ont créé l'Institut Naropa en Colorado, à Boulder, et donc il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est une université qui fait de la psychologie contemplative, qui font des études de religion, des langues orientales, de l'art,
écriture,
théâtre, en art, je veux dire, peinture, écriture. Etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils font. Mais principalement, c'est le Shambhala, c'est leur organisation. Mais lui, il est mort en 87, et maintenant, c'est son fils qui est en charge de ça. Qu'il a eu avec quelqu'un quand il était en Inde, une Tibétaine. De famille noble, et son fils est venu se joindre. Il a d'autres enfants qu'il a eu avec cette femme anglaise, je crois qu'il a eu 3 enfants, et c'est l'aîné qui est en charge de son organisation. Bon, ça c'est un peu sommaire comme explication. Ça ne rendre pas vraiment justice à l'enseignement de Shogyam Trungpa. Mais son enseignement était vraiment ne cherchez pas d'être autre chose que ce que vous êtes. Et donc, ne cherchez pas, il ne voulait pas importer toutes les formes tibétaines parce qu'il ne voulait pas que les gens croient que c'est ça dont il s'agit. Il voulait qu'ils voient la beauté et l'intégrité de leur vie telle qu'elle est. C'est un peu là où j'ai la même famille d'esprit que lui, parce que c'est la même chose. Moi, c'est la même chose. C'est la même inspiration. J'arrête là.
Je fais le vœu d'y sans limite et la réalité. Je fais le vœu de la voix insurpassable, la voix du Bouddha. Je fais le vœu de l'incarné innombrable sans les êtres vivants. Je fais le vœu de les sauver tous, inépuisables.
Laissez-moi respectueusement vous rappeler, la vie et la mort sont d'une importance extrême, le temps s'écoule sans cesse et l'opportunité se perd. Éveillez-vous, faites attention, ne gaspillez pas votre vie.